Décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Quatrième semaine de 2018, salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc.
Bon, commençons direct par le sujet sommaire.
Six petits articles, mais sympathiques quand même.
RTL, 5 questions sur la protection des données personnelles, un article de Benjamin Hu.
Qui parle de la journée mondiale de la protection des données personnelles, un truc qui a été lancé par l'Europe notamment. Donc intéressant pour voir comment on doit protéger notre vie privée.
L'info durable, un festival met la science collaborative à l'honneur, un article de Sarah Diep.
Ça parle d'un hackerspace où il y a plein de gens qui viennent travailler un petit peu sur de la mise en commun, de la science justement, où on va essayer d'innover, d'inventer, mais de manière partagée.
L'ADN, triste en ito, les internautes sont devenus le bétail de Google et Facebook. Un article d'Olivier Robillard.
Alors, interview. Une interview, effectivement. Et Nito, lui, l'image qu'il aime bien, c'est nous sommes du bétail, nous sommes comme la vache et son paysan. Et à un moment donné, ça se passe mal pour la vache.
Canoë, Linus Torvalds, les correctifs Spectre et Meltdown. De la foutaise, un article d'André Boyer.
Alors c'est Linus Torvalds, le créateur du noyau Linux, et il est pas content tout rouge, parce que Intel et les correctifs, donc des problèmes énormes de sécurité qu'on a découverts dans les microprocesseurs.
On en a parlé il y a 15 jours.
Exactement, et ces problèmes, ils vont pas s'arrêter tout de suite, mais les solutions qui sont mises en avant sont pas très bonnes, et on va les avoir dans Linux.
Intel mais... notamment demandé de ne pas installer le correctif qu'ils ont eux-mêmes publié.
Alors ça c'est pour Windows il me semble, ouais. Parce que en fait ça bloquait certains reboots, donc attention à votre ordinateur, il pourrait ne plus fonctionner.
Le monde informatique Barcelone délaisse Microsoft au profit de l'open source. Un article de Serge Leblal.
On reparle de Barcelone, qui est maintenant le phare européen des villes qui vont se mettre au libre, donc ça fait du bien.
ZDNet France, quand la défense a changé de cap en faveur de Microsoft, un article de Thierry Noisette.
Donc ça reparle un peu de l'histoire, des choix du ministère et de Microsoft, donc on revient en arrière.
On avec le fameux accord Open Bar, et donc là, il explique comment on a basculé de... vers le côté obscur, quoi.
Oui, alors que les ministres de l'époque étaient plutôt d'accord à passer tout en logiciel libre, comme la gendarmerie nationale, qui utilise les bons logiciels qu'on apprécie. Et là, non, il y a eu un changement en dernière minute pour passer à Microsoft. Microsoft Irlande.
Donc, de quoi on parle cette semaine?
On pourrait parler de vie privée dans une ville en particulier.
Dans la ville de Nice.
Ah, le soleil.
Et Estrosi, surtout.
Estrosi, qu'on aime tous beaucoup.
Bah oui.
C'est notre, alors pourquoi Estrosi, pourquoi Nice, qu'est-ce qui se passe là-bas?
Ce qui se passe là-bas, c'est que Estrosi a décidé de déployer une application qui s'appelle Reporti, qui permettrait, en théorie sur le papier, à n'importe quel citoyen de signaler les petites incivilités qu'il va y avoir dans la ville, et puis du coup, bah, pour faire intervenir les flics ou autres.
Les pompiers, les ambulances, voilà, la sécurité en général.
Quoi.
C'est une application de téléphone portable.
Oui, téléphone portable, et c'est lié au réseau de caméras de surveillance. C'est-à-dire que si on clique en disant, en filmant, en disant, regardez, il se passe quelque chose, le téléphone est géolocalisé, et donc du coup, ça envoie un signal, et du coup... Il y a les caméras locales, puisqu'évidemment Nice en est truffé, qui se mettent en branle et qui disent « Ah, voilà, je filme l'infraction ».
Donc l'infraction, l'accident, le problème qui est en train d'être reporté. Donc c'est une application qui a vocation un peu à être universelle, mais pour l'instant c'est limité à des employés de la ville.
Pour l'instant, a priori, il y aurait 2000 personnes qui ont l'application, et c'est essentiellement effectivement des employés de la ville ou des personnes de comités de quartier en particulier.
Ouais. Alors, c'est une application propriétaire, développée par une société
israélienne.
En lien avec...
C'était Ehud Barak, qui était l'ancien Premier ministre. Sa société a été chopée pour plusieurs magouilles et pas mal de bidouilles par rapport à la vie privée. Enfin, c'est pas très clair, en fait, ce qu'elle fait.
Voilà. Donc ça pose un premier problème, déjà, parce que c'est une appli propriétaire, donc on ne sait pas comment elle fonctionne, on ne sait pas ce qui se passe réellement dans les téléphones. Et c'est une appli qui localise, surveille, pleine de mouchards, hein, qui est là pour ça. Enfin, mais y compris la personne qui... possède le téléphone, c'est pas uniquement quand on appuie sur le bouton.
Non, c'est en permanence, hein, c'est effectivement, l'application s'est faite un peu taper dessus, puisqu'il y a des trackers qui sont embarqués dedans. Alors il y en a pour des besoins, on va dire, de l'utilisation, effectivement, la géolocalisation ou autre,
ça paraît indispensable.
C'est indispensable pour
étant donné son but, oui.
Mais derrière, là, en fait, ça remonte beaucoup d'informations sur comment vous vous déplacez, sur votre manière d'utiliser l'application, quand ça crache, ça renvoie beaucoup de données, en fait, sur tout votre téléphone en général, et beaucoup plus que ce que ça devrait envoyer pour un usage normal.
Donc c'est ça qui a fait hurler un petit peu les défenseurs des libertés sur Internet.
Ouais, ça est aussi l'idée que n'importe qui puisse faire de la délation. Le mot est sorti, bien entendu.
Pas mal
et
de fois.
Tout le monde surveille tout le monde. Et c'est une ambiance un peu particulière, quoi.
C'est la ville de Nice. A priori, c'est la ville où il y a le plus de caméras en France.
Oui, et bah, Estrosi s'en est beaucoup, beaucoup vanté. Oui.
Alors, il s'en est vanté peut-être à tort, puisqu'il s'en vantait après le Bataclan.
Oui, alors c'était effectivement un truc d'extrêmement mauvais goût, puisqu'au moment des attentats du Bataclan, il avait dit « Ah, oh, ceci ne sera jamais arrivé à Nice, car nous avons plein de caméras. On appréciera l'élégance. »
Mais c'est pas faux non plus, parce qu'il l'avait trouvé, le terroriste de la plage de Nice. Hein. Oui, il a posé avec Estrosi sur un selfie.
La caméra ne s'interpose pas entre toi et les balles. Enfin,
voilà, en fait, ça. Voilà. Les caméras ont été démontrées comme ne fonctionnant pas à Nice, alors qu'il s'était vanté que ça allait...
Effectivement, puisque le terroriste de Nice avait été sous les caméras, en gros, bien préparé son coup, sa manœuvre avec son camion pour voir comment il allait monter sur le trottoir, etc.
Voilà, ça, ça a alerté personne, en fait, ce qui se
passait. Les caméras, on sait que ça marche relativement, mais a posteriori.
Pour retrouver les auteurs d'un attentat, par exemple, effectivement, on peut remonter un petit peu les pistes, mais en temps réel, c'est très compliqué. Il y aura beaucoup trop de faux positifs. Il y a trop de caméras, en fait, pour être suivies tout le temps, par tout le monde.
Un cas que j'adore, c'est en Grande-Bretagne où ils ont été pionniers sur les caméras, où il y a un policier qui s'est traqué lui-même pendant plus d'une heure.
Comment ça a traqué lui-même?
Ben en gros, il y a un mec au contrôle qui a dit « Il y a un type louche qui traîne !» Et donc le flic a essayé, qui est en civil, a essayé de le retrouver, donc il a traîné dans le quartier, en suivant les indications des gens qui...
Le type louche vient de tourner à droite, voilà. Je tourne à droite, mais il est où? Il est devant toi, il est devant toi, cours, voilà. J'imagine bien l'image.
Et au bout d'une heure de ce petit jeu-là, ils se sont aperçus que le type louche, c'était le flic lui-même, en fait. Donc le mec...
J'imagine, attention, il est armé.
Enfin bref, cette question de la surveillance...
Et de son efficacité. Hein.
Et de son efficacité, alors ça pose plein de sujets, parce que, il y a effectivement l'application. Et après, il y a la question aussi de qui contrôle les données. Parce que, voilà, si moi je deviens niçois demain, et que je commence à signaler tous les gens en double fil, sachant que Nice a quand même la réputation d'être la capitale mondiale de la double fil, est-ce que mon signalement va être pris au sérieux?
Et est-ce que c'est un signalement citoyen, ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose pour ton propre avantage, ou parce que toi, ça t'énerve, et que personnellement, ça te permet de te défouler?
Alors moi, ça m'énerve. Mais, je veux dire, je pourrais être légitime, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la mairie, ou je ne sais qui va décider ce qui est effectivement un truc sur lequel on va réagir ou un truc sur lequel on ne va pas réagir.
Alors, pour information, il y a d'autres endroits où ils utilisent des applications assez proches. Je crois que c'est au Canada où ils ont des applications pour les nid de poules. Et donc, si tu vois un trou dans la route, tu peux prendre une photo, indiquer où est la photo, l'envoyer au service de la voirie. Il me semble que c'est au Canada.
Oui, c'est Canada de mémoire aussi.
Et j'avais entendu que c'était plutôt efficace.
Oui,
les services,
mais là, on est effectivement dans l'entretien d'une infrastructure. Donc, c'est relativement neutre socialement, quoi. Parce que il y a eu un précédent vers 2012-2013 en France. Il y avait une appli qui s'appelait Observer la loi et qui a été publiée par un groupe d'extrême droite proche du FN avec cette idée de dénoncer tous les contrevenants et d'incivilité.
Toutes les infractions.
Ce qui politiquement renvoie également à cette question de on a une autorité qui va décider que ça c'est grave, ça c'est pas grave, donc de poursuivre ou pas poursuivre. Puis on a des gens qui après peuvent décider s'ils sont racistes de dire je vais photographier dès qu'il y a un truc d'incivilité fait par un arabe ou un noir, je vais faire ça. Et si c'est pas un arabe, c'est pas grave, je vais pas le faire. Ou la mairie ou je ne sais qui récupère les trucs, qui dit « Ah, je vais cibler tel et tel type de personne. » Et donc, on ne sait pas qui contrôle, le biais des gens qui vont prendre les images, et deux, qui choisit ce qui va se passer derrière, quoi.
Puis il y a aussi le côté sociétal, hein, on est en train de monter une société panoptique, où du coup, tout le monde peut être surveillé, tout le monde peut se sentir surveillé, et du coup, au fur et à mesure, on perd nos libertés, on commence à se museler, à pas faire de pas à droite, parce que on serait en dehors des clous, c'est le cas de le dire. Et du coup, ça change beaucoup, beaucoup la donne, et ça normalise tout le monde, et c'est assez nocif, en fait, pour la société en général.
Alors, comme vous savez, parfois, je suis un peu positif et je cherche la bonne chose. Moi, je trouve que ça peut être intéressant de donner aux citoyens les moyens de participer à la vie citoyenne. Et s'il y a un crime en train d'être réalisé devant eux, s'il y a un accident, s'il y a un feu, je trouve que ça peut être très utile, particulièrement approprié, de donner des moyens pour que l'on rapporte, attention, il y a un feu qui est en train de démarrer, je les géolocalise là où je suis, j'envoie une photo aux pompiers, les pompiers peuvent intervenir. Ça peut quand même être nécessaire. Vous voyez un viol en train d'être réalisé, c'est de votre devoir
de le filmer.
Alors, de le rapporter, de faire en sorte qu'il s'arrête. Donc, c'est pas toujours facile. Il y a un crime qui est en train d'être déroulé. Moi, je trouve que ça peut être utile de notifier.
Ça peut jouer dans les deux sens. C'est-à-dire que si tu es témoin d'une bagarre entre dealers, par exemple, comme ça m'est déjà arrivé à Toulouse, et que tu sors ton téléphone portable pour filmer ça, je pense que ça peut se retourner contre toi assez rapidement.
Ça peut créer des problèmes. Donc, il y a toujours une forme de compromis. Ça dépend de la distance où tu es, du zoom de ta caméra, bien sûr. Mais l'idée, c'est que oui, faire participer les citoyens à la vie citoyenne, à la vie sociale, ça peut être intéressant. Mais il faut faire attention à ce que ce soit pas juste le voisin qui soit mécontent du voisin d'à côté et il a fait du bruit et donc parce qu'il a fait du bruit là je vais rapporter tous ses faits et gestes et je vais chercher la petite bête pour le faire expulser par exemple.
Après c'est vrai que c'est des compromis à faire, mais quand on parle de délit ou de crime, enfin voire de crime, c'est vrai qu'on serait content d'avoir une application pour signaler des crimes
de la corruption par exemple.
De la corruption. Mais après effectivement d'aller signaler toutes les incivilités, c'est vrai que ça peut déboucher sur beaucoup beaucoup de choses pas forcément cool quoi.
Alors c'est typiquement la, corruption, hein, je sais que le tribunal de commerce de Nice a été pas mal épinglé par Anticor, notamment en disant qu'il y avait des trucs louches qui se passaient dedans.
Là, tu penses qu'il manque un bouton corruption dans l'application.
Je me demande si un Niçois dénonce les magouilles de la mairie de Nice. Je me demande quelles vont être les conséquences pour lui, pour l'affaire en cours, etc.
Et le meilleur bouton de tout, c'est le bouton de « les flics sont en train de faire quelque chose d'illégal ». Est-ce qu'ils ont prévu ce bouton sur l'application ? Je doute.
Ouais, je pense que ça, non, ça ne doit pas exister.
Ça doit
après
pas exister.
Ça, il y a aussi des problèmes légaux. C'est-à-dire qu'en gros, on va mettre entre les mains des gens ce truc-là. Mais un, et c'est quelque chose qui est très important au niveau de la vidéosurveillance, qui est que tu ne peux filmer que la voie publique, tu n'as pas le droit de filmer chez les gens. Or, la personne qui a son téléphone, il peut... Alors, d'une part, il emmène le mouchard n'importe où, et il n'est pas formé. Donc, potentiellement, il peut sortir son téléphone, et il est témoin d'une de violence conjugale, paf, il sort son téléphone chez des gens. Il n'a pas le droit.
En tout cas, il est limité.
Et les flics ne pourraient pas s'en servir. Enfin, c'est très compliqué.
Et puis après ça, il y a son appréciation aussi, qui est de dire, voilà, il peut rendre public le truc ou quoi. Et il y a aussi la diffamation. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'il constate, lui, comme étant, il considère comme une infraction. Est-ce que c'est réellement le cas? Et du coup, en le rendant public, est-ce qu'il n'est pas en train de mettre les pieds dans la diffamation? Donc je pense qu'il y a aussi un risque juridique pour les gens qui...
C'est tout le problème des citoyens qui s'occupent de faire régner la loi, et ça c'est une difficulté qui n'est pas nouvelle. En France, on a décidé que c'était l'autorité centrale qui s'en occupait, mais il y a d'autres pays où ils considèrent que non, les citoyens ont à le faire. Il y a même des pays qui t'encouragent par exemple à porter une arme sur toi, attention le Texas, parce que tu es supposé faire régner l'ordre et la loi par ta présence.
Alors, c'est pareil avec
un flingue. En France, il y a aussi les comités de quartier, puis ça commence aussi à s'armer. Enfin, par exemple, ils viennent déjà de donner certains pouvoirs de police aux chasseurs pour faire de la surveillance ou autre.
Les chasseurs.
Donc ça, voilà. Ceux qui sont pas capables de faire la différence entre un sanglier et une jument, par exemple.
Nicolas, tu parlais du panoptique. Dans le panoptique, normalement, il y a un peu cette idée d'avoir des institutions qui vont surveiller, où la discipline, elle est portée par des institutions. Et là, on est dans un truc où chacun surveille chacun. Donc déjà, il y a tout ce problème de qui a le droit d'eux.
Hein, parce qu'on pourrait imaginer en théorie, que... tout le monde. Hein.
Oui, en théorie. Mais après, en
pratique, il y aura
on
des
biais. On pourrait imaginer en disant c'est trop le bordel parce que tout le monde dénonce n'importe qui. Donc du coup, la mairie va décider des bons relais.
Tu vas peut-être avoir une note.
Choisir les gens qui sont des gens comme il faut, etc. Donc du coup, ça peut poser des problèmes de ce type-là. Et puis, du coup, ça fait penser à des dictatures comme l'Allemagne de l'Est, où la Stasi s'appuyait sur un réseau de surveillants qui touchaient des primes, etc.
10% de la population qui aurait été touchée. Hein.
Ça pouvait être n'importe qui, ça pouvait être votre voisin,
votre femme, vos enfants.
Tout le monde se dénonçait, et effectivement, ça donne une chape de plomb sur la société, puisque du coup, on a toujours des yeux braqués sur nous, et du coup, tout le monde se muselle et tout le monde se censure.
Ouais. Et donc du coup, voilà, c'est quand même, ça sent pas très bon.
C'est quelque chose à double tranchant. Ouais. Il y a une forme de limite à trouver qui va être difficile à jauger. C'est vrai que le fait que ce soit Estrosi qui le mette en avant, ça fait bizarre.
C'était pas le bon.
Dans
c'était
la ville la plus surveillée de France, ça fait bizarre. Mais
en même temps, c'était le mieux placé pour ça, quoi. Enfin.
Il avait un bon point de départ. Que ce soit une application israélienne faite par des gens qui à la base étaient dans des partis politiques un peu chelous, c'est compliqué aussi. Il y a quand même des choses qui s'empilent. Le fait qu'il y ait des traceurs, plusieurs traceurs dans l'application, donc les gens, ils portent sur eux en permanence des micros qui vont être là pour les surveiller. C'est un petit peu compliqué, ça s'empile tout ça.
Voilà, en plus ça, voilà, on risque d'avoir, si l'app se déploie, d'avoir des masses d'infos complètement bidons.
Les faux positifs.
Et puis après, ça ouvre une porte aussi à l'arbitraire, c'est-à-dire qu'en gros, on va dire, un tel là, me pose problème, il conteste ma politique municipale ou ce genre de choses.
Ou le voisin a fait du bruit, encore une fois, ça peut être des trucs aussi.
Et donc, du coup, je vais chercher dans toute la base en disant, qu'est-ce que j'ai sur cette personne, qui l'a filmé en train de faire quoi,
et en
cette situation que tu aimes bien,
donnez-moi 6 lignes écrites par le plus honnête des hommes et j'en ferai un criminel.
Je trouve quoi le faire pendre ou ce genre de choses. On n'est pas très fort en citation, mais voilà, c'est un peu l'idée. Donc ce truc là est tout à fait flippant. Il faudrait à minima qu'il y ait des trucs un peu démocratiques sur la surveillance de qui surveille les surveillants.
Et de savoir ce que c'est que ce logiciel, d'avoir le code source, ça me paraît être une base.
Et puis de dire, on décide de qui sera poursuivi, pas poursuivi, et d'avoir au moins un audit avec des gens de l'opposition et des choses comme ça.
Éventuellement une commission d'éthique, c'est là où on peut commencer à creuser qu'est-ce que c'est cette application, à quoi va être utilisée, et faire un rapport, un suivi de ce qui se passe, pour essayer de corriger les problèmes qu'il va nécessairement y avoir.
Très bien. Merci à vous deux.
À la semaine prochaine.
Bonne semaine à tous.
Salut.